cette première critique de Niebuhr ne désire aucunement marginaliser l'œuvre de cet important penseur, mais cherche à mettre en lumière certains des problèmes intrinsèques à son ouvrage et donc d'ouvrir la voie à des remaniements importants. Ces remaniements s'appuieront en partie sur cette critique et en partie sur certaines idées provenant d'une théologie biblique. Premièrement, cette critique de Niebuhr, numéro 1, les forces et faiblesses du caractère exhaustif de l'analyse de Niebuhr pour la postérité. L'influence de l'œuvre de Niebuhr tient en partie à ce que son analyse touche à la fois catholique et protestant, l'Orient et l'Occident, des exemples tirés des pères de l'Église, du Moyen-Âge, la Réforme et l'ère moderne, les conservateurs et les libéraux, les croyants des courants majoritaires, ainsi que l'air. À notre point de vue, à ce début du 21e siècle, le seul élément important à y ajouter serait la voix de l'Église contemporaine des pays en voie de développement. Cependant, il est difficile de ne pas conclure que ce caractère exhaustif de l'œuvre de Niebuhr constitue en même temps une immense faiblesse. Il inclut, par exemple, sous son deuxième paradigme, les gnostiques et les libéraux. Pourquoi? Ce que ces deux derniers exemples ont en commun est la force de leur nombre à l'époque où ils ont dominé la scène. De plus, Niebuhr a clairement adopté la reconstruction historique de ces deux époques, qui était très populaire dans les milieux académiques à l'époque où Niebuhr a écrit, mais qui tient de moins en moins aujourd'hui. Commençons avec le gnosticisme. Dans la foulée de Walter Bauer, qui a écrit un livre « Gläubigkeit und Ketzerei im ältesten Christentum », c'est-à-dire « L'orthodoxie et l'hérésie dans le christianisme le plus primitif » ou le plus ancien, 1934, plusieurs spécialistes avaient adopté le point de vue selon lequel on ne pouvait établir de distinction entre ce que nous appelons aujourd'hui l'orthodoxie et ce que nous appelons aujourd'hui l'hétérodoxie ou l'hérésie avant la fin du deuxième siècle. Autrement dit, l'orthodoxie et l'hérésie étaient toutes les deux acceptables à l'origine à l'intérieur du christianisme naissant, selon Bauer. Si l'on accepte un tel point de vue, le gnosticisme a autant voix au chapitre que ce qui est venu à être perçu comme étant l'orthodoxie. Comme Niebuhr a écrit à une époque où l'influence de Bauer se faisait sentir sur presque toute la pensée théologique du monde occidental, il a simplement fait sienne une telle pensée. Mais de nos jours, cette position présentée par Bauer, quoique encore populaire dans certains milieux, est devenue de plus en plus difficile à défendre. Le gnosticisme, à son état achevé, n'apparaît qu'au deuxième siècle. Il est un parasite de la théologie du premier siècle, plutôt que son contemporain dès l'origine du christianisme. Plusieurs ont critiqué l'ouvrage de Bauer de façon détaillée et de manière précise. Par exemple, prenant note que le titre de l'ouvrage de Bauer prétend traiter de ce qui se produit au tout début du christianisme, même s'il ne traite que du deuxième siècle, Howard Marshall choisit le titre effronté « L'orthodoxie et hérésie à l'époque du christianisme précédent ». Nous devons nous souvenir que les auteurs du Nouveau Testament eux-mêmes faisaient la distinction entre l'orthodoxie et l'hérésie dans leurs premiers écrits, par exemple Galates 1. Versets 8 et 9 de Corinthiens 11, 3 et 4, aussi bien que dans les écrits plus tardifs, tels que 1 Jean. Bref, le gnosticisme ne possède ni les lettres de créance, ni le portrait justifiant sa place dans un ouvrage de la sorte, à moins, bien sûr, qu'on ne veuille aussi inclure les Ariens, les Nestoriens, les Mormons, et ainsi de suite. Il est de même par rapport à la théologie libérale, et qui est une des formes de ce que Niebuhr appelle le christianisme de culture. Au plan sociologique, écrit Niebuhr à leur sujet, comme nous avons vu hier, on peut les percevoir comme des non-révolutionnaires qui ne se sentent pas le besoin de postuler des fractures dans le temps, chute, incarnation, jugement et résurrection. En effet, ils rejettent toute l'idée d'un acte de rédemption accompli une fois pour toutes. Mais il s'agit d'éléments fondamentaux, Si le christianisme libéral ressemble à cela, alors Machen, bien qu'il ait écrit il y a trois quarts de siècle, avait sûrement raison. Le libéralisme n'est pas une autre confession ou encore une alternative valable à l'intérieur du christianisme, il s'agit plutôt d'une autre religion. Ce n'est pas le christianisme. De plus, bien que Niebuhr insiste à l'effet que les disciples d'Abélard se soient multipliés et ce qui était jadis hérésie est devenu la nouvelle orthodoxie, son opinion à ce sujet semble aujourd'hui moins convaincante. Sans aucun doute, la théologie libérale était à la hausse au 18e, 19e et 20e siècle, du moins au sein des milieux académiques, mais elle n'a pas conquis la majorité des gens dans la plupart des confessions avant le 20e siècle. Et maintenant, en ce début du 21e siècle, la théologie libérale, dite classique, apparaît de plus en plus démodée. Elle a encore la faveur d'un bon nombre de spécialistes, bien sûr, mais les confessions libérales rapetissent. Son influence sur la culture est en baisse et les tenants les plus extrêmes et les plus bruyants, tels que le Jesus Seminar qu'on a aux États-Unis, par exemple, a simplement l'air stupide, il faut le dire. À travers le monde, les gens qui ont hérité d'un christianisme libéral ne constituent qu'un faible pourcentage de ceux et celles qui se disent chrétiens. Apparemment, donc, le christianisme libéral et le christianisme gnostique ont ceci en commun. Pour un temps, tous deux semblaient tout balayer sur leur passage, de telle sorte que si l'on mesure l'orthodoxie en termes de popularité plutôt qu'en termes d'engagement à être fidèle à l'auto-révélation de Dieu dans les Écritures et en son Fils, ces deux courants ont jadis été la nouvelle orthodoxie, et tous deux sont abandonnés dans la fosse aux cendres de l'histoire. Cependant, d'après l'analyse de Niebuhr, le gnosticisme et le libéralisme sont les figures de proue de la deuxième de ces cinq catégories, à savoir le Christ de la culture. Si une réflexion sérieuse mène à conclure qu'aucun des deux n'est un mouvement chrétien vraiment digne de ce nom, alors il ne reste plus grand-chose de cette catégorie non plus. Il restera à savoir si on peut la récupérer. Deuxièmement, l'emploi des Écritures chez Niebuhr. Une des caractéristiques les plus intéressantes de l'œuvre de Niebuhr est le fait qu'il tente de fonder la plupart de ces cinq catégories sur les Écritures elles-mêmes, avant de parcourir l'histoire à la recherche de gens et de mouvements pouvant servir de modèle en tout et en partie à chacune de ces catégories. Mais il existe plusieurs éléments dans l'usage des Écritures chez Niebuhr qui ne peuvent être reçus. L'exemple le plus éminent est son interprétation du quatrième évangile, alors qu'il tente de soutenir sa cinquième catégorie, Christ le transformateur de la culture. Lorsque Jean nous dit que toutes choses ont été faites par le Logos et que rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui, Niebuhr en déduit que Jean n'aurait pas pu dire plus fortement que ce qui est, est bien. Mais il serait assurément plus juste en déduire que Jean n'aurait pas pu dire plus fortement que ce que le Logos a fait à l'origine est bien. Car si l'on suit le raisonnement de Jean, de telles affirmations servent à mettre en lumière la dépravation du monde. C'est précisément parce que le monde a été fait par le Logos que le rejet du Logos par ce monde est présenté dans toute sa laideur. Il était dans le monde et le monde a été fait par lui et le monde ne l'a pas connu. Ainsi, nous retournons à l'horreur de la rébellion, une rébellion que Niebuhr trouve être mieux attestée dans le motif Christ contre la culture et dans le motif dualiste Christ et la culture en paradoxe. En effet, lorsque Jean affirme que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, nous ne sommes pas appelés à admirer l'amour de Dieu parce que le monde est si grand ou si varié, si beau, ou encore parce qu'il a été créé, mais parce que le monde est si mauvais. L'affirmation de Niebuhr a l'effet que la naissance naturelle, manger, boire, le vent, l'eau, le pain et le vin, sont non seulement des symboles à employer lorsqu'on traite les réalités de la vie de l'esprit, mais ils regorgent de significations spirituelles et à la fois vraies et trompeuses. Elle est vraie, bien sûr, mais exactement de la même manière que les autres évangélistes emploient des symboles, y compris des références aux oiseaux du ciel et aux fleurs des champs. On pourrait même dire qu'elle est vraie en ce qui a trait des voleurs. Jésus reviendra comme un voleur dans la nuit, une image qui ne renvoie vraisemblablement pas aux intentions du voleur, à l'avarice ou à la méchanceté, mais plutôt à l'aspect imprévu lié à son arrivée. Ainsi donc l'affirmation est vraie, du moins à un certain degré superficiel. Toutefois, elle est trompeuse. Chez Niebuhr, l'emploi métaphorique d'éléments de la nature est par la suite doucement rattaché à l'eschatologie réalisée, tellement réalisée que ce que Niebuhr désire idéalement est une façon d'aborder la culture qui la transforme d'une manière telle que tout devient graduellement meilleur par la grâce de l'Évangile. Certes, l'Évangile de Jean contient une eschatologie plus réalisée que d'autres documents du Nouveau Testament, mais son espérance ultime n'est pas la transformation progressive du monde, mais le cataclysme final. Jésus s'en va préparer une place afin que ses disciples puissent être avec lui. Et à son retour, le Fils de l'homme ouvrira les tombeaux de tous, provoquant ainsi la résurrection à la vie et la résurrection à la condamnation. Cela aussi, c'est la théologie du quatrième Évangile, après tout, Jean 5, Jean 14. Bien entendu, Niebuhr est un lecteur suffisamment consciencieux pour que, après avoir tiré tout ce qu'il pouvait tirer du quatrième Évangile, plus en effet que ce qui s'y trouve, il concède à la fin, comme nous l'avons vu, nous ne pouvons interpréter le quatrième Évangile comme un document entièrement conversionniste, non seulement en raison de son silence à plusieurs égards, mais aussi du fait que son ton universaliste s'accompagne d'une tendance particulariste. C'est exact. Mais on doit alors se demander si le paradigme conversionniste, au moins sous sa forme idéale telle que Niebuhr souhaite qu'elle existe, peut vraiment se l'écriture. Au mieux, Niebuhr peut affirmer qu'il existe des filons ou des motifs universalistes dans la Bible. Il a construit son cinquième motif à partir de ces derniers, comme s'il doit concéder que le document du Nouveau Testament exprimant le mieux cette tendance ne peut être cité à l'appui, au moins dans sa forme la plus pure, parce qu'il est également particulariste. Et devons-nous ajouter trop rattaché à une eschatologie futuriste et à une vision globale de la rébellion et de l'idolâtrie du monde? En plus, les plus grands exemples de ce cinquième motif sont, selon Niebuhr, Augustin et Calvin, jusqu'à ce que vienne F.D. Maurice. Augustin et Calvin sont décevants, au dire de Niebuhr, parce qu'ils ne mènent pas à terme leur motif conversionniste. F.D. Maurice est le véritable héros parce qu'il permet au motif universaliste de poursuivre son cours jusqu'à l'universalisme. Non pas en s'appuyant sur le fait qu'un quelconque document du Nouveau Testament vienne soutenir une telle vision des choses, mais en s'appuyant sur ce que Maurice dit être obligé de croire. Dans la mesure où une telle position peut être justifiée à partir des Écritures, elle s'accorde avec un fil conducteur ou un motif universaliste qui fait surface à l'occasion, même si aucun document du Nouveau Testament ne soutient cette position. Ainsi, au plan méthodologique, il serait difficile de voir comment cette cinquième catégorie peut échapper aux reproches que Niebuhr lui-même adresse à certaines formes de théologie libérale. Les théologiens libéraux, affirme-t-il, s'attachent souvent à un fil conducteur de l'enseignement biblique au sujet de Jésus, le fil conducteur qui leur apparaît toujours le plus intéressant, et le transforment ensuite jusqu'à en faire la totalité. Niebuhr est tombé dans le même panneau par rapport à ce cinquième motif. Et ainsi, on doit s'interroger du même coup si le cinquième motif de Niebuhr, du moins dans sa forme la plus pure, celle qu'il préfère, peut être justifié d'une quelconque manière, sauf par la théologie de F.D. Maurice. Troisièmement, la classification des personnages historiques selon Niebuhr. L'œuvre de Niebuhr est particulièrement séduisante alors qu'il traite de plusieurs personnages historiques. Niebuhr nous dit franchement, à plus d'une reprise, que ces cinq modèles sont des idéalisations et qu'en réalité, les gens et les mouvements choisissent, par-ci, par-là, qu'ils fusionnent des éléments disparates provenant de deux paradigmes ou plus. À un moment, cependant, on se demande si l'on doit réfléchir aux relations entre Christ et la culture à l'aide de divers modèles, si les personnages historiques préfèrent les amalgames, dans la plupart des cas. Il ne s'agit pas seulement de ce que Augustin ou Calvin ne mènent pas à terme l'idéal conversionniste, mais que Tertullien, par exemple, n'est pas cohérent lorsqu'il souscrit au paradigme de Christ contre la culture, alors que Justin Martyr et Clément d'Alexandrie ne sont pas cohérents dans leur recherche du modèle synthétiste, et ainsi de suite. En plus, certains personnages apparaissent dans deux ou trois modèles. F.D. Maurice sert de témoin en faveur du paradigme de Christ de la culture et comme la quintessence du modèle conversionniste, Christ comme transformateur de la culture. On commence à se demander si, du moins en certaines occasions, les divers modèles subsistent rarement dans une forme pure, ou peut-être s'ils devraient même subsister du tout. Est-il possible qu'une fusion des modèles soit parfois plus fidèle à la révélation biblique que de choisir n'importe lequel de ces modèles dans la forme la plus pure qui soit? Quatrièmement, Niebuhr et le canon. Ce qui est en jeu, ce sont deux visions sensiblement différentes par rapport au rôle du canon des Écritures. Première vision. La vision de Niebuhr, une vision encore assez courante dans certains milieux académiques, est à l'effet que la Bible en général et le Nouveau Testament en particulier nous présentent un certain nombre de paradigmes. Nous sommes fidèles aux Écritures aussi longtemps que nous choisissions l'un de ces paradigmes, n'importe quel, ou peut-être même un quelconque amalgame. La règle canonique ne consiste pas alors à rendre compte de la totalité du message canonique, mais à établir des frontières à l'intérieur desquelles se meuvent différents paradigmes tous aussi acceptables les uns que les autres. Ainsi, Niebuhr voit en Galates et en Jean de bons exemples de modèle Christ contre la culture, et dans le quatrième évangile, un bon exemple, quoique pas tout à fait suffisamment bon, du modèle Christ transformateur de la culture. Deuxième vision. D'autre part, les chrétiens reconnaissent la diversité que l'on trouve dans la Bible en général et dans le Nouveau Testament en particulier, mais insistent que c'est la Bible comme un tout qui forme le canon, et que la règle du canon réside dans la totalité des enseignements canoniques, non pas en ce qu'elles établissent des frontières à l'intérieur desquelles se meuvent diverses possibilités. Ceux et celles qui souscrivent à ce point de vue, et c'est le point de vue historique soutenu par la théologie chrétienne, tente d'éviter à tout prix de niveler les Écritures. Ils admettent d'emblée les différences de genre littéraire dans la Bible, lettres, discours, évangiles, fables, paraboles, proverbes, apocalyptiques, lamentations, chants, généalogie, histoire, oracle, prophétique, et ainsi de suite. Et donc également les différentes façons dont les formes littéraires atteignent leur objectif. Ils reconnaissent l'existence de changements lors du passage d'une alliance à une autre. Après tout, la plupart des chrétiens aujourd'hui ne sont pas sabbatistes du septième jour, se préoccupent de ne manger que des aliments cachers, et désireux de voir se construire un temple sur le mont Sion afin d'y sacrifier un bœuf et une chèvre pendant le Yom Kippour. Il y a toujours eu des débats au sujet de la façon exacte de comprendre comment les différentes parties des Écritures tiennent ensemble. Cependant, le christianisme confessionnel historique a toujours soutenu qu'une fois ces questions résolues, du moins à la satisfaction d'un groupe en particulier, de manière à comprendre comment la Bible se tient, nous pouvons parler de ce que dit la Bible, non pas seulement de ce que dit une partie de la tradition biblique. Après tout, Dieu lui-même est à l'origine de ces livres. Ces deux visions du canon sont sensiblement différentes et elles touchent directement notre propos. Souvenons-nous que Niebuhr cite Galates comme exemple remarquable du modèle Christ contre la culture. Mais l'apôtre Paul qui a écrit Galates est le même que celui qui a écrit Romains 13. Qui est certainement beaucoup moins au mode conflictuel. À l'encontre de Romains 13, le livre de l'Apocalypse présente une énorme confrontation entre Christ et Satan, entre la Nouvelle Jérusalem et Babylone, entre l'épouse de Christ et la grande prostituée, en bref, entre Christ et la culture. Devons-nous supposer que le Paul qui a écrit Romains 13 renierait l'Apocalypse s'il était trouvé dans la position de Jean le visionnaire? renierait-il sa propre épître aux Galates? En supposant que le même Jean a écrit un Jean que le quatrième évangile, envisagea-t-il deux paradigmes disparates pour exprimer la relation entre Christ et la culture lorsqu'il a écrit des deux livres, l'un adoptant le modèle Christ contre la culture et l'autre présentant quelque soutien au modèle Christ le transformateur de la culture? Il ne convient pas de présenter ici un plaidoyer en faveur de cette deuxième version du canon. Néanmoins, je soutiens que c'est la seule qui puisse être défendue, et certainement que c'est celle dont les lettres de créance sont les mieux et les plus longuement attestées. En supposant que ce soit le cas, alors on devra certainement apporter d'autres changements au paradigme en cinq temps de Niebuhr. Nous ne devons pas croire que chacun des modèles présentés par Niebuhr dans son système à cinq temps peut être attesté par des documents spécifiques du Nouveau Testament, de telle sorte que nous pouvons choisir à notre guise quel modèle nous préférons, pensant que tous peuvent être soutenus de manière identique par le canon, leur donnant voix au chapitre individuellement. Nous devrions plutôt tenter d'en arriver à une compréhension globale des relations entre Christ et la culture, tout en étant conscient à l'intérieur de notre démarche que certaines circonstances particulières peuvent nous conduire à souligner certains éléments dans une situation donnée et d'autres éléments dans une autre situation, qui nous mène maintenant aux éléments non négociables de la théologie biblique. J'ai souvent fait allusion à la nécessité d'incorporer à notre réflexion au sujet des relations entre Christ et la culture le récit des grands moments décisifs de l'histoire du salut. Il ne s'agit pas seulement ici d'un critère négatif, mais positif. C'est-à-dire, il ne s'agit pas seulement de saisir que si quelqu'un rejette des réalités telles que la création, la chute, l'incarnation, la mort et la résurrection de Jésus-Christ, la venue de l'Esprit, le jugement dernier, la fin de toutes choses, il se situe alors à l'extérieur des balises chrétiennes. Mais qu'il est important de réfléchir aux conséquences positives que pourraient avoir ces réalités en rapport à notre sujet. Peut-être est-il inutile de le noter, mais les prochains paragraphes sont extrêmement sommaires. La seule raison pour laquelle je traite de sujets si compliqués et si importants de manière si brève est que l'on a quelque chose à gagner en les traitant tous en même temps. Ça, c'est le point. De noter au passage leur contribution à n'importe quelle discussion chrétienne au sujet de la culture. Il faut préserver toutes ces non négociables à la fois. Autrement, nous perdons quelque chose. Donc, un survol vaut la peine. Numéro 1. La création et la chute. Dieu a créé toutes choses. Et tout ce qu'il a créé est bon. Il a créé les êtres humains à son image et à sa ressemblance. La création est le fondement même de toute responsabilité humaine à rendre compte à Dieu notre Créateur. Il nous faut prendre plaisir en lui, le servir, lui faire confiance, lui obéir, non seulement parce qu'il est parfaitement bon, mais parce que nous le lui devons. La splendeur de cette création originale continue à rendre témoignage à l'existence et à la puissance de Dieu. Elle continue à susciter l'admiration et l'émerveillement, même si son état actuel inclut également la mort et la catastrophe. Le fait que Dieu nous a créés des êtres corporels révèle quelque chose d'important au sujet de notre nature intrinsèque et anticipe la culmination de toute chose à l'autre bout de l'histoire. Nous avons été créés afin de connaître et d'aimer Dieu, afin de nous réjouir en lui dans le contexte d'une existence corporelle. Et nous connaîtrons et aimerons Dieu, et nous nous réjouirons en lui dans le contexte d'une existence corporelle ressuscitée. En plus, portant en nous-mêmes l'image de Dieu, nous avons certaines responsabilités envers le reste de la création, des responsabilités de gouverner, de prendre soin, en reconnaissant à la fois notre unité à cette création et notre place distincte à l'intérieur de celle-ci. Nous ne sommes pas seulement une race créée, mais aussi une race déchue. La chute n'est pas seulement la désobéissance à une quelconque loi arbitraire, elle est la rébellion de la créature envers son créateur. Elle est l'engagement scandaleux de tenter d'usurper la position du Créateur. Le cri arrogant, futile et ahurissant qui dit « Je serai Dieu » non seulement mène à la mort, mais à la destruction de toute relation. Au cœur de tout ceci se trouve l'idolâtrie elle-même. Elle est la dédéification de Dieu. Elle est la chosification de Dieu. Elle est la créature élevant le poing au visage du Créateur en disant en effet, « Si tu ne vois pas les choses à ma manière, je ferai mes propres dieux. Je serai mon propre Dieu. » Pas surprenant que le péché qui provoque la colère de Dieu est le plus souvent cité à procès ne soit pas le meurtre, par exemple, le pillage ou tout autre acte horizontal de barbarisme, mais l'idolâtrie, ce qui détrône Dieu. C'est aussi pour cela que, pour chacun des péchés, c'est Dieu qui est le plus offensé. Comme David lui-même l'avait compris, « J'ai péché contre toi seul, et j'ai fait le mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche, dans ton jugement. » Psaume 51. Jésus avait très bien compris que le premier commandement est d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée, de toute sa force. Il s'ensuit que le premier péché, c'est de ne pas aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée et de toute sa force. C'est le péché qui est toujours commis lorsque tout autre péché est commis. Au fur et à mesure que se dévoile la trame biblique, les dimensions abominables du péché deviennent de plus en plus évidentes. Le péché est non seulement l'idolâtrie et l'orgueil archétypique, mais il est également la transgression de la loi que Dieu donne. Il tisse son propre réseau de corruption et de conséquences selon que Dieu livre ses créatures à leurs propres désirs. Le péché est social. Quoi qu'il soit avant tout un défi lancé à Dieu, il n'existe aucun péché qui n'ait de conséquences sur la vie des autres. Même les péchés secrets du cœur et de la pensée affectent les autres, puisqu'en me changeant subtilement, ces péchés changent également mes relations avec les autres. La convoitise que l'on nourrit en secret, par exemple, affecte bientôt les relations entre un homme et son épouse, et ses relations avec les autres êtres humains. Pas étonnant que le jugement de Dieu s'étende jusqu'à la troisième ou à la quatrième génération de ceux et celles qui haïssent Dieu, Exode 20. Le péché est social. Le jugement vient non seulement sous la forme de la mort de chaque génération, mais aussi sous celle d'une condamnation générale comme celle du déluge, Genèse 9, 6 à 9, des cycles incessants de guerre, de peste et de famine, par exemple le juge ou l'exil, et finalement de l'enfer lui-même au sujet duquel Jésus a beaucoup à dire. Le péché nous enveloppe tellement qu'il rompt chaque facette de notre être, notre volonté, nos sentiments, notre perception des autres et donc nos relations, nos corps et nos pensées. Il encourt la culpabilité et il nécessite plus que le pardon et la réconciliation avec Dieu, puisque les conséquences du péché sont omniprésentes. Nous avons besoin d'être régénérés et transformés. Toutefois, la chute n'a pas le dernier mot. Déjà dans Genèse 3, on trouve des signes d'espoir. Dieu lui-même cherche le rebelle. Dieu lui-même leur promet une descendance qui un jour écrasera la tête du serpent. Dieu lui-même les revêt d'habits afin de cacher leur nudité. Quel soulagement de découvrir que ce Dieu n'est pas seulement le Dieu jaloux qui punit la faute des pères sur les filles jusqu'à la troisième et la quatrième génération de ceux et celles qui le haïssent. Parce que le péché, comme nous avons pu le constater, possède des ramifications sociales monumentales. Mais il est aussi le Dieu qui use de bienveillance jusqu'à 1000 générations envers ceux qui l'aiment et qui gardent ses commandements. De même, quel réconfort de savoir que même si le péché est odieux et omniprésent, que ce soit sous forme d'idolâtrie ou sous forme de barbarie, comme celle de Pol Pot ou d'Auschwitz, Dieu intervient afin de restreindre le mal, d'exposer sa grâce commune en toutes choses et par toutes choses, de telle sorte que des parcelles de gloire et de bonté apparaissent même au sein de la misère de la rébellion. Dieu fait encore briller le soleil, envoie encore la pluie sur le juste et sur l'injuste. Il guide encore la main du chirurgien et donne de la force à l'éboueur. Il existe toujours des couchers de soleil à nous couper le souffle et des sourires d'enfants qui nous réchauffent le cœur. Des actes de bonté accomplis au prix de grands sacrifices personnels se manifestent dans chaque race et dans chaque classe d'êtres humains. Non pas parce que nous sommes de simples mélanges de bonté et de méchanceté, mais parce que même au sein de notre rébellion, Dieu nous restreint et manifeste sa gloire et sa bonté. Les chrétiens ne peuvent réfléchir longtemps au sujet de Christ et de la culture sans penser au fait que ce monde-ci est le monde de Dieu, mais que de ce côté-ci de la chute, le monde arbore à la fois la gloire et la honte, et que toute manifestation de culture humaine révèle à la fois que nous sommes créés à l'image de Dieu et que cette image est déformée et rongée par la rébellion humaine contre Dieu. Deuxièmement, Israël et la loi. Il serait utile de s'adonner à l'étude de l'appel qu'Abraham a reçu et de l'alliance qui porte son nom. On y trouve le choix gracieux et souverain de Dieu en ce qu'il appelle certains individus, Abraham et Sarah, et par eux une race et une nation, et encore les points spécifiques de la promesse à l'effet qu'en lui et en sa descendance toutes les nations de la terre seront bénies. On pourrait également s'attarder au rôle étrange de Melchisédek, ce qu'il représente d'un prêtre-roi idéalisé, et aussi de sa place dans la trajectoire passant par le psaume 110 et Hébreux 7. Toutefois, nous nous attardons à l'Exode, la constitution du peuple d'Israël comme nation, le don de la loi, l'établissement de ce qui sera appelé plus tard l'ancienne alliance, l'entrée dans la terre promise. Parmi toutes les facettes de cet ensemble d'événements qui pourraient attirer notre attention, nous en choisissons quatre. Numéro 1. Tout comme c'était le cas de l'appel qu'Abraham a reçu, il en est de même ici. Dieu choisit par grâce son propre peuple. Dans le cas présent, il vient à son secours, le délivre de l'esclavage et en fait sa propre possession. Mais si Israël constitue en lui-même le peuple de Dieu à travers presque tout l'Ancien Testament, on ne peut également ne pas se souvenir de la miséricorde de Dieu envers Ninive, ainsi le livre de Jonas. La promesse d'Ésaïe qu'un jour même les ennemis suprêmes d'Israël, la Syrie et l'Égypte, deviendront partie intégrante du peuple de Dieu, ou psaume 87, comme nous avons vu ce matin. Et du rôle de Ruth dans la lignée de la dynastie davidique, malgré ses origines moabites. Numéro 2. La loi qui est donnée par Dieu touche toute la vie. Une façon de dire, entre autres, que le peuple de Dieu doit demeurer le peuple de Dieu dans toutes les facettes de son existence. La loi régit leur moralité, ce qu'ils mangent et boivent, où ils habitent, toutes leurs relations, tous leurs cultes et leurs rites. Elle est entourée de promesses et de menaces, et du même coup, elle devient une façon de démontrer que le peuple ne pourra obéir longtemps aux exigences de cette alliance. Ce qui annonçait la bénédiction et la paix en vient, à cause de l'entendement du peuple de Dieu, à multiplier la culpabilité, transformant l'idolâtrie fondamentale en transgression spécifique. Numéro 3. Malgré notre tendance à croire que le cœur de l'Alliance se situe dans la loi morale, le texte biblique consacre beaucoup plus de place à décrire le tabernacle, la prêtrise, le système sacrificiel et des questions de rite et de louange individuelle et collective. Ceci ne doit pas nous étonner. Le point crucial est de reconnaître comment des gens coupables et souillés peuvent s'approcher de Dieu. Dieu pourvoit gracieusement à une structure appropriée, à l'aide de médiateurs, de sacrifices, de formes et de systèmes riches en symboles, de manière à ce qu'à la fois il démontre que le chemin vers le saint ne doit jamais être reconnu comme allant de soi et qu'un tel accès est rendu possible. Tout découle de là. Sans cela, toutes les autres bénédictions sont illusoires. En fait, la structure sacerdotale est tellement essentielle à l'alliance que si cette structure venait à changer, on devait également changer l'alliance elle-même. Une vérité que l'auteur de l'Épître aux Hébreux comprend très bien, Hébreux 7, 11 et suivants. 4. Israël forme une théocratie. On n'y trouve aucun indice de la séparation des pouvoirs. Dieu peut se servir d'agents par qui il dirige son peuple, les prophètes, les prêtres, et finalement le roi. Mais ceux-ci agissent en son nom et servent à titre représentatif à l'intérieur de cette structure tribale. Idéalement, la culture israélite tout entière devait refléter la gloire de Dieu et révéler la vérité de Dieu ainsi que sa nature. Un conflit entre Dieu et la culture, sous un tel régime, ne pouvait signifier autre chose que le peuple s'éloigne de Dieu de manière douloureuse et odieuse. Nous ne devons pas oublier que l'histoire de la nation d'Israël s'insère elle-même dans une histoire aussi aux dimensions plus grandes, celle d'Abraham et de sa postérité, et que cette dernière s'insère elle-même dans une autre histoire aux dimensions encore plus grandes, celle de la race humaine, ce que Paul souligne en Romains 5. Nous devons donc réfléchir à la façon dont ces réalités influent sur la manière d'établir les relations entre Christ et la culture. Justifie-t-elle, par exemple, une théocratie? Pourquoi? Ou pourquoi pas? 3. Christ et la nouvelle alliance. Je dois me limiter ici à 6 commentaires. Bon, je vais les réduire. 4 ou 5. Numéro 1. Le Nouveau Testament fonde plusieurs exhortations sur l'incarnation de la parole éternelle. Jean 1. L'incarnation fait partie intégrante de l'exemple suprême d'abnégation et de service envers les autres donné par Jésus, préalable à la vindication, Philippiens 2. Elle est une composante essentielle de son identification aux êtres humains, venant dans le but de les sauver, eux, et non les anges, Hébreux 2. Elle est le moyen par lequel Jésus tabernacle, pour ainsi dire, parmi nous, Jean 1, 14. Il vient faire sa demeure parmi nous et il devient notre tabernacle, notre temple, Jean 2, notre lieu de rencontre entre Dieu et les humains. Jésus n'est pas présenté seulement comme celui qui livre le message de son Père, la façon dont Mohammed est présenté dans l'islam comme étant le dernier prophète qui amène le message de la part d'Allah. À d'importe l'égard, Jésus est plutôt lui-même le message. Il est lui-même la parole, de même qu'il nous l'amène. Numéro 2. Jésus annonce et inaugure le royaume de Dieu. Quoique dans un certain sens, Dieu est présenté comme étant le roi de l'univers, dans un autre sens, il est le roi d'Israël dont la souveraineté est médiatisée par son fils, Davidique. C'est quand même Yahvé lui-même qui est le grand roi, non seulement David et ses héritiers, et Jérusalem est la ville du grand roi, psaume 48. Lorsque Jésus inaugure ce royaume attendu et annoncé depuis longtemps, le terme « royaume » devient un symbole dont le sens est façonné par les contextes où il apparaît. Le règne de Dieu, parce que le terme royaume, règne, est beaucoup plus souvent dynamique que statique, beaucoup plus règne que royaume, vient en même temps que le bébé qui vient de naître comme roi, Matthieu 2. Le règne vient également avec le début du ministère public de Jésus et l'annonce de l'aube de ce royaume. Il est manifesté par les miracles et la prédication des disciples de Jésus, Luc 10. Dans les paraboles de Jésus, il prend de telles proportions que le blé et l'ivraie peuvent tous deux y pousser, Marc 4. D'autre part, il est cette partie du règne dynamique de Dieu à l'intérieur duquel se trouve la vie éternelle, Jean 3. Jésus meurt et ressuscite et monte à la droite de la majesté céleste et dans l'attente de ce règne, il annonce que toute autorité lui a été donnée, dans le ciel et sur la terre, Matthieu 28. C'est ici, en effet, que ce règne est absolu. Comme Paul l'indique, toute la souveraineté divine est médiatisée par Jésus, 1 Corinthiens 15. Le royaume est déjà arrivé. Il est toutefois encore à venir, attendant le retour du roi. Cette diversité d'usages est une des raisons pour laquelle nous devons lutter continuellement avec les tensions qui y sont inhérentes. La tension la plus importante est celle qui allègue que le royaume est déjà présent, l'eschatologie réalisée ou inaugurée, et la promesse que le royaume arrivera finalement à la consommation des temps. Dans aucun de ces cas ne s'agit-il d'une monarchie constitutionnelle, comme dans la Britannique. Jésus élève à un degré superlatif tout ce que l'expression « le droit divin des rois » pourrait signifier. En fait, à la fin, plus rien ni personne ne contestera son autorité. Même présentement, confesser Jésus comme étant Seigneur est reconnaître la légitimité qui s'attache à ses prétentions et s'engager à le servir. De plus, le royaume que Jésus entrevoit n'est plus restreint à Israël empirique. Au contraire, plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et se mettront à table avec Abraham et les autres patriarches dans le royaume, tandis que les héritiers qu'on aurait cru les plus évidents sont laissés dehors. Matthieu 8. Ce n'est pas pour rien qu'on a appelé les quatre évangiles canoniques des narrations de la Passion et de la Résurrection, précédées d'une longue introduction. L'intrigue s'en va dans cette direction. Les interpréter sans d'abord faire référence à la croix et à la résurrection est tout simplement irresponsable. De plus, à l'intérieur du cadre plus large du canon, la mort de Jésus est fortement liée à l'accomplissement des sacrifices de l'Ancien Testament, et sa résurrection le justifie. Jésus lui-même croit que sa mort procure une rançon pour plusieurs, Marc 10. Ses paroles, lors de la scène, démontrent qu'il présente sa mort, le fait que son sang sera versé et que son corps sera brisé, comme le fondement de la rémission des péchés, de même que l'inauguration de la Nouvelle Alliance. Pas étonnant que Paul insiste sur le fait que, dans sa prédication, il cherche à ce que son point de mire soit la croix, 1 Corinthiens 2, laquelle il comprend être le dessein de Dieu d'annuler le péché et d'absorber la colère dans la personne du Fils de Dieu, colère qui nous était destinée, Romains 3. Dans la même veine, l'apôtre Pierre voit dans la croix à la fois le modèle de service et d'abnégation en faveur des autres et l'unique sacrifice par lequel Christ a porté nos péchés en son corps sur le bois. Entendre la puissance de telle affirmation aujourd'hui exige un effort de volonté parce que ces paroles sont tellement bien connues qu'il nous est si facile de les prononcer et de nous en souvenir. Mais ce n'était pas le cas lorsque la croix était tellement un symbole de malédiction et d'opprobre que les gens devaient soit rejeter Jésus comme un malfaiteur maudit de Dieu ou, au contraire, commencer à entrevoir ce que Jésus avait subi pour eux. Tout ceci, devons-nous le rappeler, est tout simplement non négociable pour toute forme de christianisme que ce soit, qui cherche sa forme dans cet évangile cruciforme. Dans la mesure où quelqu'un s'oppose à ces éléments fondamentaux, comme l'ont fait les Juifs aussi bien que les Grecs au 1er siècle, 1 Corinthiens 1, il peut recevoir une note élevée de la part de la culture en général, notamment lorsque celle-ci méprise la folie de la croix. Mais la folie de Dieu est plus sage que toute la sagesse des êtres humains. Je laisse à côté le quatrième. Cinquième, la mort et la résurrection de Jésus, le fait qu'il ait été élevé à la gloire qu'il avait auprès du Père avant que ce monde fût, devient le fondement sur lequel le Saint-Esprit, le Paraclet, a été accordé par le Père et le Fils à la communauté de la Nouvelle Alliance. Selon la terminologie de Paul, cet Esprit est le gage de l'héritier promis. On trouve ici une facette d'une eschatologie inaugurée qui ne se transpose en degrés limités, quoique bien réels, de transformation, d'unité, de révélation. Bref, une expérience de la présence et de la puissance de Dieu. Alors qu'il convainc le monde de péché, il rassemble et forme le peuple de Dieu dans la Nouvelle Alliance. Et ce peuple, cette Église, rachetée au prix du sang, possède un avenir aussi assuré que la résolution et le triomphe de Christ. « Je bâtirai mon Église », a déclaré le Maître, « et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. » Parmi les nombreuses conséquences tirées des différentes images de l'Église dans le Nouveau Testament, on trouve celle-ci. le lieu même du peuple de Dieu dans la Nouvelle Alliance n'est pas une nation, ni Israël, ni aucune autre nation, mais une communauté transnationale composée de gens de toutes langues et de toutes tribus, de tout peuple, de toute nation. Bien sûr, ceci n'amène pas à perdre de vue que les chrétiens jouissent d'une humanité commune avec tous les autres. Néanmoins, ceci établit la sphère universelle du témoignage chrétien à toutes les nations, tous les peuples, toutes les langues, partout, tout en garantissant que de ce côté-ci de la fin, il existera des tensions continuelles entre la communauté chrétienne et toutes les autres communautés. Et finalement, c'est précisément à ce point-ci qu'il nous faut réfléchir à cette parole de Jésus: « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. » Le contexte est important. Marc 12, 17, Matthieu 22, 21, Luc 20, si vous voulez examiner le contexte. Pour lui tendre un piège, quelques pharisiens et hérodiens, des collègues pour le moins inusités, lui demandent s'il est permis de payer le tribut à César. S'il répond par l'affirmative, Jésus risque de s'aliéner une partie importante de son auditoire juif, non seulement parce qu'il détestait la superpuissance romaine, mais aussi parce que l'empereur dont l'effigie apparaissait sur la pièce de monnaie était adoré comme étant divin en quelque sorte. Si la pièce utilisée pour payer le tribut est le denier, on y aurait trouvé la tête de Tibère, le César régnant à l'époque, avec les mots en latin « Tibère César, fils du divin Auguste ». Approuver le paiement d'un tel tribut à un tel seigneur et avec de tels moyens semblait équivaloir à de l'idolâtrie. D'autre part, si Jésus répond par la négative, il peut être accusé par les Romains eux-mêmes d'inciter à l'insurrection. Jésus répond en demandant qu'on lui apporte la monnaie en question. Il la tient et demande « De qui sont cette effigie et cette inscription ?» Inévitablement, ils répondent « De César ». C'est à ce moment que Jésus prononce sa fameuse maxime « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu ». D'une certaine façon, donc, la réponse de Jésus était une manœuvre intelligente par laquelle il a évité le piège et a laissé ses adversaires bouche bée. Mais on doit analyser cette réponse à deux degrés supplémentaires si l'on désire comprendre la portée des paroles de Jésus relativement à notre propos. On comprendra plus aisément le premier degré lorsqu'on se souviendra que jusqu'à ce point dans l'histoire humaine, la religion et l'État étaient partout entrelacés. Ceci était le cas, bien sûr, dans l'ancien Israël. Au moins en théorie, Israël était une théocratie. De même dans le monde païen. Les dieux des nations étaient nécessairement les dieux de l'État. Lorsque les Romains conquéraient un nouveau territoire, ils opéraient un échange de dieux. Ils incorporaient certains dieux locaux dans leur propre panthéon et tenaient à ce que les populations locales adoptent certains dieux romains. Ceci eut pour effet de faire disparaître l'allégeance locale à des dieux qui leur étaient particuliers. S'il y avait une révolution, il aurait été très difficile de savoir de quel côté les dieux auraient combattu. Mais nulle part n'a-t-on vu un État séparé de tous les dieux, ce qu'on appellerait aujourd'hui un État séculier, où l'État et la religion occuperaient des sphères distinctes, comme si celles-ci devaient se chevaucher. Mais à première vue, c'est ce que Jésus préconise. Pour le moins, dans la mesure où il anticipe une communauté transnationale et transculturelle qui n'est associée à aucun État, il prévoit l'obligation quand même de rendre au César qui dirige ce qui lui est dû. Toutefois, nous ne devons pas croire que cette parole de Jésus garantisse une dichotomie absolue entre Dieu et César, ou entre l'Église et l'État, ou entre Christ et la culture. Ceci nous amène au second détail du texte que nous devons noter. Lorsque Jésus a demandé « De qui sont cette effigie et cette inscription ?» ceux et celles qui connaissent la Bible se souviendront que tous les humains ont été créés à l'image, l'effigie, à l'image et à la ressemblance de Dieu. Genèse 1. De plus, les gens de son peuple ont l'inscription de la loi de Dieu en eux. Exode 13, Proverbe 7, Ésaïe 44, Jérémie 38. Si nous rendons à Dieu ce sur quoi son image est inscrite, nous devons tous nous donner à lui. Loin de confiner Dieu à ses attentes, c'est-à-dire les attentes religieuses, à un domaine précis, cette célèbre parole de Jésus signifie que Dieu l'emporte sur César. Nous pouvons être obligés de payer le tribut à César, mais nous devons tout, notre être même, à Dieu. Quelles que soient les obligations civiles des disciples de Jésus, ceux-ci doivent les accomplir à l'intérieur du contexte de leur responsabilité envers Dieu. Car leur devoir envers Dieu réclame tout leur être. Paul comprend ces réalités. Car lorsqu'il insiste que les chrétiens doivent payer leur impôt à César et en effet rendre l'honneur et le respect et tout ce qui s'ensuit aux autorités, Romains 13, les autorités elles-mêmes ne possèdent pas une autorité qui soit autre ou en concurrence avec celle de Dieu, comme le pourraient-elles. Elles sont au service de Dieu, Romains 13, 4. Les autorités qui existent ont été établies par Dieu, 13, 1. Reconnaître cette vérité nous conduit vers des discussions complexes au sujet de la nature de la divine providence, une discussion qui devra attendre d'être traitée dans d'autres conférences. Mais à ce point-ci, cependant, reconnaissons qu'avec la venue de Jésus et de l'Évangile, quoique Jésus lui-même ait fait une distinction entre l'autorité de César et celle de Dieu, et que ceci soit en fonction de la réalité politique à l'effet que le peuple de Dieu n'est pas l'État de César, ou n'importe quel autre État, néanmoins, Jésus n'admet pas que Dieu et César soient des autorités parallèles. Ce n'est pas comme si Dieu est l'autorité dans le domaine privé ou religieux. Tout ce que nous avons et tout ce que nous sommes vient de Dieu. Dieu ne renonce jamais au fait qu'il soit Dieu. Toutefois, en disant cela, nous devons nous rappeler que, bien que Jésus affirme cette vérité, il ne réintroduit pas subrepticement la théocratie de l'État ou la prétention papale médiévale d'être supérieur aux États. Le même Jésus insiste que César, le César païen et idolâtre, reçoive ce qui lui est dû. Comment cela se traduit dans la réalité sera notre propos tout au long de cet ouvrage. Et quatrièmement, finalement, la dernière chose dans la théologie biblique que je vais mentionner. Un ciel à atteindre et un enfer à craindre. Même s'il nous enseigne à être des gens responsables ici et maintenant, le Nouveau Testament attire régulièrement notre attention à ce qui vient après la mort, à ce qui vient lorsque Jésus revient. Nous ne devons pas nous amasser de trésors sur la terre parce que tout ce qui est ici est seulement temporel. Les vers et le rouille détruisent, les voleurs percent et dérobent. Mais ce que nous amassons dans le ciel demeure pour l'éternité. La gloire finale consiste en un nouveau ciel et une nouvelle terre, des corps ressuscités et la joie incessante d'être toujours et pour l'éternité en la présence de celui qui est assis sur le trône et de l'agneau, comme le répète l'Apocalypse. Ce que l'on doit craindre et éviter à tout prix est la seconde mort. Ceci signifie que les relations présentes entre Christ et la culture n'ont pas de statut final. Elles doivent être évaluées à la lumière de l'éternité. Davantage, ceci laisse entendre qu'aussi longtemps que nous demeurons dans ce royaume qui est déjà inauguré, mais qui n'est pas encore pleinement accompli, il n'y aura pas d'utopie. La perfection, lorsqu'elle viendra, arrivera avec la fin, par le retour de Christ et la consommation des bénédictions de l'Évangile. Il n'existe pas de mandat, dans une perspective chrétienne, à tenter de découvrir des utopies ailleurs que là. Mais ceci signifie que dans notre existence actuelle, même si nous recevons des parcelles, des gloires sans pareil et des bontés finales, même si par la grâce de Dieu nous vivons et servons à l'intérieur d'une communauté dont les origines, l'autorité, le mandat ne sont pas ancrés uniquement ici-bas, nous ne sommes naïfs au point de croire que nous pouvons nous-mêmes susciter cette fin. Cela signifie que nous vivons au milieu de tiraillements qui ne trouveront de solution que lorsque nous vivrons dans la Nouvelle Jérusalem. Afin de clore cette conférence, je dois présenter trois commentaires en dernier lieu. Numéro 1. Les éléments tirés de la théologie biblique mentionnés à la section précédente doivent contrôler notre pensée simultanément et en tout temps. C'est pourquoi je les ai appelés les éléments non négociables de la théologie biblique. Il ne sera pas suffisant d'en choisir quelques-uns. Et sur la base de ce choix de construire notre modèle de ce que devraient être les relations entre Christ et la culture, et ensuite prétendre qu'il s'agit d'une des options chrétiennes parmi tant d'autres. À certains égards, du moins, c'est ce que Niebuhr a fait. Par exemple, dans son idéalisation du modèle Christ, le transformateur de la culture, il a simplement laissé la fin de côté. Ce qu'il perçoit être une faiblesse chez Augustin et Calvin devient soudainement une force. Augustin et Calvin ont tenté d'intégrer tous les éléments non négociables de la théologie biblique. La raison même pour laquelle ils ne peuvent souscrire au modèle que Niebuhr appelle la forme pure du modèle conversionniste. Bien sûr, F.T. Maurice peut souscrire à ce modèle, mais il peut le faire précisément parce qu'il ne se sent à l'aise de laisser de côté certaines des données bibliques. Pour nous, ce n'est pas une option. Encore une fois, si nous maximisons les conséquences de la chute et maximisons l'originalité de la communauté des rachetés, et que nous situons ensuite le tout dans un contexte de persécution, nous produisons alors le modèle Christ contre la culture. Ceci est compréhensible au plan psychologique. Mais est-il utile de le proposer comme étant l'une des options? Ne serait-il pas plus juste de nous souvenir d'autres vérités complémentaires, telles que le fait que Dieu demeure souverain sur toute la création, que nous sommes nous-mêmes des pécheurs ayant continuellement besoin de la grâce, de sorte que nous ne sommes pas plus que de pauvres mendiants annonçant aux autres où trouver du pain? Que l'Évangile transforme les gens à un point tel qu'ils deviennent le sel et la lumière dans un monde ténébreux et qui se dégrade, que les dons divins de la grâce commune sont de bons dons, même lorsqu'ils sont noyés dans une culture d'abord caractérisée par sa rébellion envers Dieu, et qu'au dernier jour, toute justice sera non seulement rendue, mais démontrée d'être telle. En d'autres termes, si nous voyons ces choses comme trouvant leur place dans un grand ensemble, alors peut-être y a-t-il lieu d'accentuer certains éléments de l'héritage venant du modèle Christ contre la culture à cause des réalités existentielles de la persécution. Mais même de tels chrétiens persécutés ne seront pas dupes au point de penser que leur perception de Christ et de la culture est l'ensemble. Poussons l'argumentation à un degré plus élevé de spéculation. Tertullien aurait-il réfléchi de la même façon s'il avait été transporté à Rome en l'an 325, après Constantin, ou à Paris en 2005? En autre terme, n'est-il tout simplement pas sage de recommander une réflexion plus étendue au sujet des relations entre Christ et la culture, et du même coup reconnaître que certains éléments dans ces relations devront être accentués dans des circonstances existentielles concrètes? Eh bien, je laisse le reste de ça à côté. Numéro 2. On pourrait éclaircir ce premier point à l'aide d'une analogie. Certains théologiens ont identifié différents modèles au sujet de la théorie de l'expiation qui ont été construits tout au long de l'histoire de l'Église. Ils ont cherché à établir chacun d'entre eux quelque part dans le Nouveau Testament. Par exemple, la théorie de la gouvernance morale ou la théorie de l'expiation substitutrice. Et ainsi de suite. Il y a une sixaine à peu près qui sont assez populaires. Mais ceci est erroné au plan méthodologique. Lorsque certains personnages historiques ont cherché à présenter un modèle de l'expiation au détriment d'un autre, comme nous l'avons déjà vu chez Abélard, il y avait souvent tout un système théologique sous-jacent à l'œuvre. Mais une approche plus sage consiste à reconnaître que les documents fondateurs, le Nouveau Testament et évidemment les documents bibliques, présentent l'expiation de diverses façons complémentaires. On ne devrait pas alors parler de modèle de l'expiation qui soit différent, distinct, mais plutôt de différents aspects de l'expiation. La seule en essayant de trouver comment ces aspects se tiennent et sont reliés les uns aux autres, comme c'est le cas par exemple dans 1 Pierre 2. Nous serons plus sages si nous renonçons à distinguer différents modèles ou paradigmes ou motifs des relations entre Christ et la culture, et si nous pensons plutôt en termes de sage intégration dont différents aspects de l'ensemble exigeront plus d'attention de temps à autre. Finalement, et c'est le finalement final, donc encouragez-vous. Que nous insistions que la souveraineté de Dieu sur toute la création, une souveraineté que Jésus lui-même présuppose dans sa parole « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu », nous rappelle une autre question à régler. Car la réalité de la souveraineté nous rappelle à partir d'un autre point de vue que les catégories « Christ » et culture ne s'excluent pas l'une l'autre à tous les égards. Les postmodernes affirment que chacune des manifestations de Christ se trouve à l'intérieur de la culture. On pourrait plutôt dire pas Christ et culture, mais culture dominée par Christ et culture non pas dominée par Christ, ou quelque chose comme cela. D'une façon ou d'une autre, il importe de sonder ce que Christ et culture signifient lorsque les deux termes principaux ne sont pas antithétiques à tous les égards. Autrement dit, ce que nous entendons par Christ et la culture ne sont pas deux domaines distingués d'une façon absolue. Christ règne sur chaque domaine, dans les cieux et sur la terre. Le sujet au cœur de ce débat, c'est l'autorité. Le Christ a déjà toute autorité, mais seulement dans l'Église, la communauté rachetée par son sang, trouvons-nous les êtres humains qui se sont soumis à cette autorité. C'est ce que ça veut dire confesser la seigneurie de Jésus-Christ, se soumire à sa sainte parole. C'est une tragédie énorme, une méchanceté énorme, que nous les chrétiens, nous aussi, nous nous trouvons souvent dans la rébellion contre cette autorité, et donc dans le péché. Quand même, s'il n'y a pas de repentance fondamentale à cause de la grâce de Dieu, s'il n'y a pas de soumission fondamentale à son autorité, s'il n'y a pas de Christ dans l'expression Christ et culture, il n'y a pas de christianisme. Mais la culture est aussi sous l'autorité de Jésus-Christ. La culture, avec toute la diversité de langues, de symboles, de religions, de philosophies, de coutumes, d'actes et d'artefacts. Mais en ce cas, l'autorité de Jésus-Christ fonctionne dans les mystères de la Providence, c'est-à-dire le monde conteste cette autorité, ne se soumet pas à sa révélation et prétend qu'il est libre de savoir ou au moins qu'il a la liberté de choisir ou de rejeter ce qu'il veut de cette autorité. Néanmoins, l'autorité de Jésus contestée ou même niée continue pour accomplir tous ses desseins. Le monde créé par Dieu ne peut jamais perdre toute la gloire que Dieu lui a donnée, psaume 8. Et Dieu lui-même continue à faire du bien. Il envoie le soleil, la pluie, le gouvernement pour réduire les dangers de l'anarchie et des personnes malignes. Et il démontre aussi sa patience en attendant la repentance. À la fois, toute la potentielle soi-disant naturelle du monde créé par Dieu est possible à cause du Dieu créateur et opère sous l'autorité de Jésus-Christ. Tous les arts, toute la musique, toute l'organisation, toute la diversité. Mais, à la fois, tout est corrompu par le péché. Notre nationalisme tente à prétendre qu'une nation ou une race est Dieu. Notre démocratie prétend vox populi, vox dei, c'est-à-dire la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Notre libéralisme prétend que la poursuite de la liberté est Dieu, liberté même de l'idée de Dieu, qui nous rend esclaves de nouveau. Tous nos ismes veulent devenir Dieu et tombent facilement dans le barbarisme, et en tout cas reflètent l'idolâtrie que Dieu condamne. La culture, donc, dans l'expression « Christ est la culture », c'est la culture qui ne confesse pas l'autorité de Jésus-Christ, malgré le fait qu'elle ne peut pas s'en échapper. Des fois, cette culture ignore Christ et donc les chrétiens. Des fois, elle contredit le Christ et les chrétiens. Des fois, elle les persécute. Et les réponses des chrétiens s'adaptent en ligne avec les exemples que nous trouvons dans le Nouveau Testament. Mais toujours, nous attendons l'arrivée de Jésus-Christ, l'arrivée du nouveau ciel et de la nouvelle terre, la résurrection, la perfection, la beauté de la sainteté sans péché. En l'attendant, nous reconnaissons que nous sommes tous pécheurs, mais que ceux qui sont régénérés, que ceux qui sont soumis à l'autorité de Jésus-Christ, nous avons la responsabilité de répandre cet évangile partout, par notre parole, par notre conduite, pour rendre gloire à Dieu et pour faire du bien à tout le monde, surtout les frères et sœurs en Christ. Ce qui est souligné dans le Nouveau Testament, ce n'est pas de transformer cette culture, dans le sens de culture que nous avons déjà utilisé, mais la convertir. Mais quand même, nous faisons partie de la culture dans un sens plus large, la partie de la culture qui confesse la seigneurie de Jésus-Christ et donc la priorité de son évangile. Il est inévitable que cet évangile transforme. Comme M. Buchot a bien expliqué, et un jour, comme dit l'Apocalypse, Les nations marcheront à la lumière de Dieu et de l'agneau, et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Amen.